France Info.
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Vous êtes soulagé ce matin ? Soulagé que la France n'ait pas été dégradée par deux agences de notation hier soir ?
Non, vous savez, on n'a jamais conditionné notre politique financière, économique, à ce que faisaient les agences de notation. Donc, il faut prendre acte de cette décision. Elle montre que la France mène une politique économique sérieuse, mais ça ne change rien aux efforts qu'on doit faire pour assainir les comptes de la nation. Moi, je pense que ce sont des sujets sur lesquels il faut dire l'exacte vérité. Oui, il y a une situation budgétaire qui est difficile, qui nécessite, après des grands efforts qu'on a faits pendant les crises, la crise sanitaire principalement, et de revenir à une gestion des comptes publics plus assainie, où on diminue notre endettement, on diminue notre déficit. Et donc, ce que disent les agences de notation, ça ne change rien à ça. Vous savez, toute la question qui est posée, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes et par nous-mêmes.
Les signaux qui ont été envoyés ces derniers mois de rigueur budgétaire, d'aller chercher des économies, ça n'était pas uniquement, finalement, fait pour ça, pour ne pas être dégradé.
Mais absolument pas. Et on a toujours tenu la même position sur cette question-là. Et donc, ça n'est pas parce que des agences de notation aujourd'hui disent effectivement que la trajectoire est sérieuse, certainement crédible, j'imagine que c'est ce qu'il y a derrière cette décision, ça doit changer quoi que ce soit. Vous savez, je crois que dans ces temps que nous vivons, où il y a beaucoup de tensions, que ce soit géopolitiques, qu'elles soient commerciales, la seule question qui est posée, c'est ce qu'on fait par nous-mêmes. C'est notre capacité à décider pour nous-mêmes de notre avenir. C'est le même sujet pour les enjeux européens que pour les enjeux budgétaires.
Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas plus d'économies à faire. On ne va pas aller vers 20 milliards d'économies l'année prochaine puisqu'on est bien noté.
Mais encore
un
une fois,
élève, à la limite, il n'a pas besoin de faire plus d'efforts.
Hein. Tout ça, ça serait conditionné au fait que nous menions une politique économique pour les agences de notation.
Vous avez fait 10 milliards pour ça.
Non, mais on a toujours été constant sur cette question-là. On fait des économies parce qu'il y a moins de recettes. C'est aussi simple que ça et je pense que chacun peut le comprendre. Et donc les décisions que nous avons prises, nous ne les avons pas prises pour les agences de notation. Donc encore une fois, quand les agences de notation sortent une décision, tant mieux, ça montre que ce qu'on dit est crédible, que la trajectoire est crédible, mais ça ne change rien au choix que nous devons faire parce que moi je fais pas ça.
Les 3% c'est moins une obsession
pour les agences de notation, je fais ça pour les prochaines générations.
Les 3% de déficit c'est moins une obsession pour ces agences de notation que pour vous aujourd'hui. On a l'impression que c'est vraiment une obsession financière.
Mais c'est pas une obsession financière. Avoir des comptes publics qui nous permettent d'investir dans l'avenir, qui nous permettent de défendre notre modèle de protection sociale, c'est pas pour les agences de notation, c'est pour les Français qu'il faut faire ça, c'est pour les prochaines générations. Vous voulez pas laisser à des générations le fardeau de la dette qui empêche toute décision, tout simplement, pour décider de notre avenir commun.
Bon, Stanislas Guérini, autre actualité de ces dernières heures, c'est Sciences Po Paris, qui a fait l'objet hier de vives tensions entre des militants pro-palestiniens et pro-israéliens. Finalement, le campus a été évacué, la rue Saint-Guillaume a été libérée. Est-ce que ça vous semble normal que, finalement, l'école ainsi ait dû négocier avec des étudiants pour tout simplement qu'ils laissent libre l'établissement?
Tant mieux que le calme soit revenu. Mais honte. Honte à ceux qui instrumentalisent un conflit. Je pense à toutes les forces politiques, notamment à tous les militants qui viennent essayer d'importer un conflit sur le sol français. Honte à ceux qui parlent de paix et qui appellent au soulèvement. C'était le cas de la candidate LFI aux
élections
européennes.
Ils étaient nombreux d'ailleurs hier soir, les députés LFI notamment.
Honte aux militants qui, pour des soi-disant cause de paix, empêche tout débat, empêche 15 000 étudiants de se rendre en cours. Donc, honte à cela. Je crois qu'il faut être extrêmement clair.
Honte à ces élèves qui ont
honte aux militants. Honte aux militants.
C'est-à-dire que ces élèves étaient des militants.
Honte aux militants qui empêchent ce que doit être un lieu de savoir, une université, une école où on apprend, où on doit pouvoir débattre librement.
Jean-Luc Mélenchon, honte qui sont l'honneur de la France, au contraire.
Bien, moi, je crois que tous ceux, dont Jean-Luc Mélenchon, qui cherchent à instrumentaliser, qui cherchent à diviser, qui cherchent, ils ne s'en cachent pas, à créer une stratégie de conflit permanent, honte à cela. Moi, je crois que la société française, elle est plus grande que ça. Elle doit permettre le débat. L'école s'engage pour permettre ce débat-là.
Est-ce qu'elle devait annuler les procédures disciplinaires lancées contre certains étudiants ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'est mise au diapason des conditions des élèves pour clore cette...
Je ne connais pas tous les détails des discussions qui ont pu avoir lieu. Ce que j'ai compris, c'est que d'ailleurs, ce que l'école a dit, ça ne concernait pas ce qui s'était passé avec le blocage d'un amphithéâtre avec l'éviction de certains étudiants. Je pense que ça, c'était évidemment honteux. Et donc, il y a des procédures, y compris judiciaires, qui sont en cours sur cette question-là. Elles doivent demeurer. Tant mieux que l'école s'engage pour pouvoir rétablir le calme, parce que c'est ça aussi, et le débat apaisé dans notre société. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a des gens qui ont là un autre agenda, qui n'est même pas un agenda de paix, qui est un agenda de conflit. Moi, quand j'entends le terme de soulèvement sur des questions aussi sensibles, je vois bien qu'il y a derrière une stratégie d'instrumentalisation, et je le dis sans ambiguïté, honte à cela.
Instrumentalisation, quand on entend que certains, notamment des membres de la France Insoumise, élus ou candidats, se retrouvent convoqués par la police pour apologie du terrorisme, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est dans un climat un peu compliqué en termes de liberté d'expression, en termes de liberté d'expression politique aussi ?
Moi, je crois que on doit garantir la liberté d'expression, évidemment. Elle est saine dans le débat.
Mais quand vous dites honte
politique.
À cela, quand vous dites honte à cela, c'est une manière de restreindre aussi leur liberté de parole.
Je suis un responsable politique. J'ai des positions. Je vois des gens qui aujourd'hui instrumentalisent, portent des positions qui ne sont pas les positions de la France, d'ailleurs, sur la question des deux États. Je vois des militants qui plaident pour une Palestine de la mer au fleuve, c'est-à-dire qui effacent l'État d'Israël. Je vois des positions qui sont purement anti-israélienne et avec en toile de fond parfois une forme d'antisémitisme latent.
Alors justement, c'est de l'antisémitisme. Ce qu'a dit hier Elisabeth Badinter.
Nous devons le combattre.
Elisabeth Badinter a dit hier: jamais je n'aurais pensé que tous ces jeunes gens soient antisémites et que l'antisémitisme se développe grâce à eux. C'est la philosophe et essayiste, bien sûr, épouse de l'ancien garde des Sceaux décédé il y a quelques mois. Il y a de l'antisémitisme pour vous derrière cette mobilisation?
Il y a de l'antisémitisme dans notre société.
Mais là, il y a, dans le cas fond, présent.
Je ne sais évidemment pas le dire et je ne jetterai pas l'accusation sur des jeunes militants dont je ne sais pas si derrière il y a un fond d'antisémitisme. Mais il y a derrière ce climat, derrière cette instrumentalisation dans notre société de façon indéniable, un antisémitisme rampant. Et nous devons le combattre. Nous devons le combattre en permettant la liberté d'expression qui a son cadre, qui doit être garanti. Je précise, vous m'interrogez sur les convocations judiciaires. Ce ne sont pas les convocations qui sont effectuées par le gouvernement. La police, la justice, elle est indépendante dans notre pays. Et donc, elle doit mener un agenda qui est indépendant de celui du gouvernement. Moi, je pense qu'on est dans un cadre démocratique. Le débat doit pouvoir toujours se faire. Moi, je le souhaite, en tout cas, dans un cadre qui est celui de la liberté d'expression, justement, qui garantit qu'on n'appelle pas à la haine, qui garantit qu'on n'appelle pas... qu'on ne fasse pas l'apologie du terrorisme. Ça, c'est la loi, mais c'est simplement à la justice de le dire.
Le 8-30 France Info, Benjamin Sportouche, Jean-Rémy Baudot.
Avec le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini. Stanislas Guérini, on l'a appris ce matin, Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, envisage une cotation principale de son groupe à la Bourse de New York. Ça ne vous choque pas qu'un grand groupe français comme ça s'exile, s'expatrie aux États-Unis?
Moi, ce qui me semble important, c'est que le siège de Total reste en France. Total, c'est une entreprise française dont on sait...
C'est pas un premier pas avant cela, justement,
dont on sait,
une délocalisation.
En tout cas, mon souhait à moi, c'est que Total reste une entreprise française. Je vais vous parler clairement ce matin. On sait, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que les entreprises de Total, les actions, les activités de Total, elles se font beaucoup en dehors de la France.
Mais symboliquement, ça ne vous choque
même
pas?
Même largement commenté dans les débats, parfois, sur la politique fiscale, et là où Total faisait ses bénéfices.
Symboliquement, ça ne vous choque pas,
Stanislas Guérini? Je crois que Total doit rester une entreprise française, évidemment, avec son siège en France. C'est ça qui détermine l'appartenance d'une entreprise française. La question de sa cotation, c'est une autre question. J'avoue que je n'en connais pas ce matin largement les contours. Mais ce qui me semble important, c'est que Total reste une entreprise française avec son siège en France. Ça, c'est clair.
On est à 3 mois des Jeux Olympiques, ça approche à grands pas et la crainte de grève existe toujours. La CGT a déposé il y a 2 semaines des préavis dans les 3 branches de la fonction publique, un préavis qui court depuis le 15 avril jusqu'au 15 septembre. C'est votre annonce de vouloir faciliter les licenciements dans la fonction publique qui a entraîné ces préavis. Franchement, Stanislas Guérini, est-ce que c'était le bon moment à 3 mois des JO de lancer une telle bombe sociale?
Alors d'abord, je veux le préciser, les syndicats eux-mêmes et la CGT eux-mêmes n'ont pas du tout dit que c'était la question et la concertation que j'ai ouverte sur le projet de loi de réforme de la fonction publique qui a conditionné les préavis de grève. Non mais je veux simplement le préciser parce qu'eux-mêmes l'ont dit et tout ça pourrait être vérifié. Donc les syndicats ont émis un certain nombre de revendications sur l'accompagnement social des agents publics pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est un événement exceptionnel. Nous répondons à ces revendications qui sont légitimes, puisque les agents publics seront très largement mobilisés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Combien d'agents de la fonction publique sont mobilisés pendant les JO?
Ceux qui seront directement impliqués dans l'organisation des JO, c'est un petit peu moins de 100 000 agents publics qui seront directement mobilisés. Mais beaucoup d'agents publics seront parfois en amont des Jeux Olympiques, mobilisés pour délivrer, par exemple, des visas, parce qu'il y a un surcroît d'activité dans notre pays.
C'est un chiffre que nous connaissons pas, c'est pour ça qu'on vous pose la question.
Oui, mais la fonction publique sera extraordinairement mobilisée pour un événement extraordinaire. Alors, et donc, c'est normal qu'on puisse accompagner. Moi, je ne crois pas qu'il y aura de grève pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est pas le sentiment que j'ai quand j'échange avec de nombreux, très nombreux agents publics qui ont envie que cet événement réussisse. Je note que la CGT est la seule organisation syndicale qui est appelée à la grève. Ils ont ouvert un préavis. Les discussions, elles peuvent continuer. Elles sont très intenses, très nourries sur la question des Olympiques. Ces derniers jours encore, il y avait des réunions à la fois sur des questions de primes. J'ai, à votre antenne, un dispositif de primes de 500, de 1000, de 1500 euros et davantage encore pour nos forces de sécurité.
Néanmoins,
d'accompagnement social des agents, je veux le dire aussi, sur des places de crèche, des chèques emploi-service universel pour pouvoir accompagner. Donc je crois que l'accompagnement est à la hauteur de l'engagement extraordinaire des agents.
Donc il y aura un engagement des agents pendant ces Jeux Olympiques, mais en même temps, effectivement, il y a quelques jours, quelques semaines, vous reparliez de l'idée de faciliter les licenciements dans la fonction publique.
Je parle évidemment de réformer la fonction publique. Je crois que c'est nécessaire.
Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Dans un moment, on se demande si la tension sociale va nous permettre d'avoir des beaux jeux.
Nous avons annoncé, le président de la République l'a fait, le Premier ministre l'a fait, notre intention de mener une réforme de la fonction publique. Est-ce qu'elle est nécessaire? Je crois que oui. Est-ce que tout va bien dans la fonction publique? Je crois que ça n'est pas le cas et donc une réforme est nécessaire. J'ai annoncé de longue date que je mènerai une concertation digne de ce nom, avec les organisations syndicales, avec les employeurs de la fonction publique et toutes les parties prenantes. Et donc j'ai ouvert cette concertation. On va prendre le temps de la concertation. Je la mènerai jusqu'à l'été. Mais la façon la plus respectueuse de mener une concertation, c'est de tout mettre sur la table, qu'il n'y ait pas de projet caché. Et donc moi je souhaite pouvoir développer beaucoup plus de mobilité dans la fonction publique, y rentrer plus facilement, être promu plus facilement aussi. Aborder la question aussi de la façon de sortir de la fonction publique.
Et de l'emploi.
Je souhaite qu'on puisse mieux récompenser
le travail. Vous dites encore aujourd'hui, il n'existe plus.
Mais c'est pas la question de l'emploi à vie. Je vais être très précis, puisque aujourd'hui, les propos que j'ai tenus ont été très commentés. Ce que j'ai dit, c'est que je ne remettrai pas en cause la garantie de l'emploi dans la fonction publique. Il n'y a pas, quand vous supprimez un service dans la fonction publique, on ne supprime pas les emplois, les agents publics qui y sont associés. On leur propose de faire autre chose. C'est ça la garantie de l'emploi dans la fonction publique. Mais ce que j'ai dit, c'est que le statut, tel qu'il a été imaginé de la fonction publique, il n'a jamais dit que quelqu'un qui ne fait pas son boulot, je parlais très clairement, on ne puisse pas le licencier. Voilà tout simplement, banalement, ce que j'ai pu dire. Et je crois que la situation aujourd'hui, effective, le nombre de licenciements dans la fonction publique, elle montre qu'effectivement, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et moi, je crois que la responsabilité, quand on est un responsable politique, c'est de dire ce qui ne marche pas et puis de proposer des amendements, des ajustements pour corriger ce qui ne fonctionne pas.
Hier, à votre place, Clément Beaune, et votre ancien collègue ministre des Transports, a vertement critiqué un accord sur les fins de carrière qui a été trouvé lundi à la SNCF. Il a rejoint en cela les critiques exprimées par la droite. Cet accord prévoit une amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier pour les cheminots qui ont occupé des postes à forte pénibilité. Est-ce que vous êtes aussi choqué par cet accord, vous un peu surpris?
Non, moi, je n'utiliserai pas le terme choqué. Par nature, et je précise que la SNCF, c'est une entreprise que ces agents, ce ne sont pas des agents publics, des fonctionnaires, et donc ça ne rentre pas dans mon champ, en l'occurrence, de discussion et de concertation. Moi, je ne peux pas être choqué par le dialogue social. C'est le fruit du dialogue social dans cette entreprise.
Ça va coûter 300
millions. La SNCF.
Et c'est à votre et je, de ceux qui utilisent.
Moi, je respecte le dialogue social. Peut-être, je veux dire deux choses, pour être très clair, et que ceux qui nous écoutent n'aient pas de confusion sur ce sujet-là. D'abord, ça ne remet pas en cause la réforme des retraites, qui s'applique partout, à tous les salariés.
C'est pas une forme de dévoiement de
à tous les salariés du privé comme les salariés du public.
De contournement de la réforme.
Ensuite, la SNCF fait des ajustements qu'elle financera elle-même en tant qu'entreprise. La deuxième précision que je veux faire, c'est que ça n'impactera pas le contribuable français. La réforme des retraites, nous l'avons fait dans un souci d'équilibre.
Peut-être le billet de train, mais bon, ça, on verra.
Dans un souci d'équilibre, oui. Mais cette réforme, elle s'appliquera pleinement entièrement, et ensuite la SNCF fait un accord particulier.
Il nous reste quelques secondes. Les européennes, c'est dans un mois et demi, et les sondages sont de plus en plus inquiétants pour votre liste. Tiens, on a l'impression qu'il va y avoir un croisement des courbes avec Raphaël Glucksmann, qui serait aux alentours de 14 points contre 16,5 pour votre candidate. Vous vous préparez à ce qui vous passe devant ?
Et alors, on arrête de faire campagne ? Chaque jour, on commente les sondages. Chaque jour, on commente tout ce qu'il y a autour de cette élection européenne.
Ça dit pas quelque chose quand même ?
Et on ne commente pas le contenu de cette élection européenne. L'enjeu, c'est un enjeu historique pour notre continent. On parlait au début de notre interview de notre capacité à décider pour nous-mêmes. C'est exactement ça l'enjeu de cette élection européenne.
C'est un thermomètre, un sondage. Donc
le président de la République...
Campagne, eh bien, elle marche pas pour l'instant.
Surtout dans une élection européenne. Vous savez très bien que les sondages, ils sont souvent donnés des résultats très différents. Et la seule question qui vaille, c'est une question de mobilisation dans une élection européenne. Ceux qui croient qu'on a besoin d'Europe, ils doivent venir voter le 9 juin. Parce que cette élection, elle est plus importante que jamais. C'est le retour de l'histoire dans notre continent. C'est ça que le président de la République, cette semaine, a montré. Je crois qu'il a eu raison de le faire, de poser les grands enjeux, au fond, de ce qui est devant nous, qui est un moment d'histoire. Donc moi, j'appelle... à la mobilisation, tout simplement.
Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, merci beaucoup d'avoir été l'invité du 830 France Info.